Bonjour DJ Ike.
Salut,
Salut.
salut.
Merci de prendre du temps pour nous.
Ben, merci à vous de m'inviter, ça fait plaisir.
De rien.
Voilà, deux, trois questions à poser
Je suis là, toutes les questions que vous voulez, les gars, on est entre nous, donc
sur la vie
promis,
d'artiste.
il n'y a pas de souci.
Ok. Mais du coup, comment est-ce que tu as démarré ta carrière? Comment ça s'est venu?
Ben en fait, j'ai commencé dans les années 80, je suis tombé amoureux de la culture hip-hop. J'ai découvert à travers la danse le breakdance. Donc au départ, avant d'être DJ, j'étais un danseur. Et puis, on découvrait au fur et à mesure, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas de vidéo où on pouvait regarder. Donc à chaque fois qu'il y avait un petit moment de breakdance à la télé, on était là comme des fous, on essayait de comprendre ce qui se passait. Et puis on allait s'entraîner avec un carton dans la rue et on a monté un petit groupe avec quelques amis, quelques potes. Et puis voilà, je suis devenu un pas trop mauvais breaker. Donc on a fait des compétitions, on a gagné et tout. Donc c'est cool. Mais après, à un moment, je me suis lassé un petit peu parce que ça n'évoluait pas trop. Malgré qu'aujourd'hui, ils sont à un stade tellement extraordinaire, les b-boys et tout. Donc je me suis dirigé un petit peu vers les autres disciplines du hip-hop, donc comme le rap, comme le graffiti, comme le DJing, le beatbox et tout ça. J'ai vraiment accroché sur le DJing, j'avais pas de matos j'allais tous les week-ends chez un pote qui s'appelait DJI City, qui lui avait du matériel. J'allais m'entraîner une fois chez lui par semaine. Et c'était vraiment le début, quoi, tu vois. Donc j'adorais la musique, on allait chez au disquaire acheter des vinyles et tout ça. Et c'était à celui-là qui ramenait le vinyle le plus rare et celui-là qui avait chopé le remix le plus inédit du moment. Et c'est comme ça au fur et à mesure que j'ai appris. Puis je me suis inscrit à des compétitions. Ma première compétition était catastrophique, mais catastrophique. Je suis arrivé dernier, c'est simple. Je suis arrivé dernier parce que, si tu veux, moi je m'étais orienté vraiment vers le scratch et la technique. Et moins vers le mix, tu vois. Et c'est une compétition de mix. Et moi, j'étais pas trop là-dedans. J'étais plus dans les compétitions comme le DMC, qui est renommé au niveau des DJ qui sont très techniques et scratch. Et donc, c'était à Las Vegas, au Shape. Tu vois, je sais pas si vous connaissez, du côté de Mons. Et donc, j'ai fait le concours. Je suis arrivé dernier. Et le patron du club a dit: oui, toi, tu n'y arriveras jamais, tu seras jamais DJ, arrête immédiatement. Et c'est vrai que je faisais de la technique, c'était pas le but de faire danser les gens, mais de montrer un show aux gens. Il m'avait tellement blessé, tu vois, que je me suis dit: ah non, je peux pas laisser faire. Et je me suis encore plus entraîné. Et l'année d'après, je suis devenu champion de Belgique de DMC, en fait. Et puis l'histoire, elle a commencé là.
C'est ouais. Faut toujours persévérer.
Toujours, toujours. Il faut jamais écouter ce que. Quand c'est constructif, il faut écouter, tu vois, parce qu'on est, on n'est pas des sans faute. Voilà, tu vois, les critiques constructives sont toujours positives, donc au final. Mais je veux dire, quand c'est critiquer pour critiquer sans savoir, faut pas y faire attention. Je pense qu'il faut, quand on a un but dans la vie, il faut toujours le garder et toujours croire en soi, parce que la seule personne qui peut t'aider à y arriver, c'est toi-même, en fait. Donc j'ai toujours persévéré, toujours cru en moi, même si j'étais un peu décalé par rapport à ce qui se faisait. Et c'est ce que j'ai toujours été, même malgré toutes mes années de carrière, et même encore aujourd'hui, je suis décalé d'un Henri PFR ou d'un Quentin Mosimane. Moi, je viens, c'est un vrai show technique avant même de faire danser les gens, tu vois. J'ai toujours gardé cet aspect-là, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, et ça, je le respecte. Mais je veux dire, voilà, ça plaît vu que j'ai quand même su perdurer dans le temps jusqu'à maintenant, plus de 30 ans. Donc c'est qu'au final, ça a touché les gens et ça a plu. Donc voilà, c'est cool.
Et tu mixes qu'en vinyle ou tu mixes aussi avec des platines numériques?
Non, j'ai commencé en vinyle, évidemment. Je me trimballais avec 4 bacs de disques. C'était super lourd, super chiant. Et puis quand le numérique est arrivé, comme le Serato, donc j'ai mis du temps à faire le changement, mais quand je me suis mis, j'ai utilisé plus que ça, quoi, en fait. Donc après, j'avais vu Guetta qui était venu pour la première fois avec des clés USB, et ça m'avait choqué de fou parce que je me dis: waouh, comment il a mis tout son set dans une clé USB. et comment il s'en sort, tu vois. Mais au final, je suis resté sur le Serato. Je trouve que le Serato, c'est un programme quand même assez fiable, tu vois, et solide. Et tu peux trimballer partout dans le monde. Et ça reste stable partout où tu joues. Ça s'adapte directement à tous les matos. Donc, jamais eu de stress avec le Serato. Et par moment, ben, je joue avec des vinyles Serato. Par moment, je joue avec des HDX, qui sont des platines de marque qui n'existent plus, qui ne fabriquent plus, qui ont un disque dur et interne. Donc, si tu veux, le dessus, c'est comme un vinyle, parce que j'aime garder cet aspect vinyle, contrairement à utiliser les CDJ 1000 ou 2000, qui sont très statiques. On ne voit pas que le plateau tourne, tu vois, et j'ai besoin d'un plateau qui tourne, tu vois. Et donc, voilà, j'utilise parfois ça ou parfois les vinyles Serato. Et maintenant, ce qui est aussi, il y a le système phase, je sais pas si vous avez entendu parler. C'est un système où il faut même plus déposer l'aiguille sur le vinyle. C'est un petit rectangle comme ça qui envoie l'information directement à ton Serato. Et donc, si tu veux, ce petit rectangle, tu le prends en main et tu peux scratcher avec.
Faut
Tu
qu'il
tournes sur
tourne.
place et ça joue le son, ça envoie le signal, quoi. Et c'est juste incroyable, quoi, si on a réussi à l'époque. Parce qu'il faut bien se dire, à l'époque, je viens de l'époque des dinosaures, donc à l'époque, pour avoir un remix ou pour avoir un son de scratch, il fallait presser le vinyle soi-même, tu vois. Et j'en ai fait beaucoup des vinyles, tu vois, à l'époque. Et aujourd'hui, bah, tu prends juste l'MP3, le Wave, ou, voilà, et tu le mets dans ton Serato et tu fais une phrase et tu peux scratcher la phrase n'importe laquelle, tu vois. Et nous, il y avait tout un processus d'attente qui nous a beaucoup freiné, mais qui aujourd'hui, tout va tellement vite et c'est ça qui est bien aussi dans l'évolution, quoi. Mais malgré cette évolution technique et technologique, j'ai toujours gardé et voulu garder l'aspect du show comme je faisais à l'époque au DMC. Pas trop non plus, parce qu'il faut faire danser les gens, mais j'aime bien apporter cette petite touche différente et un peu plus, si tu veux, ancestrale, on va dire, avec des scratchs, avec des passe-passe, pour montrer aux gens qu'un DJ, c'est pas juste un gars qui vient, qui appuie sur un bouton et qui joue les mêmes mashups que tout le monde, quoi.
Et on se demandait l'autre jour pourquoi le pseudo DJ d'Adiké.
Oh, DJ Lalique, bah, en fait, c'est une longue histoire. Si je vous la raconte, vous allez tous vous endormir. Non, mais à l'époque, dans le hip-hop, on aimait tous avoir un surnom. Et comme moi, j'avais commencé dans le breakdance, j'avais un surnom, on me donnait un surnom d'un membre de Rocksteady Crew, qui était un membre américain, un breaker américain super connu. Il s'appelait Kouriaki. Donc, soit, tout le monde s'en fout, tout le monde a déjà zappé, là. Et donc, on m'appelait le Kouriaki belge, parce que je faisais les mêmes mouvements que lui. Au sol, et on rêvait tous d'avoir, tu sais, à l'époque, des chaînes, des bagues avec nos noms, les trucs bling-bling du rap de l'époque, qui sont toujours là aujourd'hui, mais qu'à l'époque, on ne savait pas se payer, on ne savait pas s'offrir. Donc, c'était la fête des pères, et il y avait un coupe-papier pour la fête des pères en or, comme ça, doré, et il y avait écrit Daddy, donc au bout, et donc j'ai plié la bague du couteau. Et j'ai fait croire à tous mes potes, ouais, j'ai une bague de New York, Daddy, Daddy. Ils me disent, mais tu t'appelles pas Daddy? Je dis, ouais, mais non, mon nom c'est Daddy Kerr, en gardant le K de Kouriaki en souvenir. Et juste à cause de cette bague, en fait, cette pseudo-bague pour faire croire à mes potes, et j'ai gardé le nom et c'est resté, quoi. Voilà, l'histoire où tout le monde s'est endormi. Mais ce qui est drôle, c'est que le nom Daddy aujourd'hui, se porte bien, parce que comme je fais partie, entre guillemets, des pionniers du mouvement et notamment du DJing et de tout ça, on me considère un peu comme le papa de tous les DJ en Belgique, en tout cas, et en France aussi beaucoup. Et donc finalement, c'était peut-être pas un hasard que je trouve ce coupe-papier avec écrit Dali, quoi.
Est-ce que produire c'est important? Enfin, produire de la musique pour devenir connu, ou c'est pas trop.
Ben, aujourd'hui, la production est très importante dans le sens où le DJ est plus reconnu en tant qu'artiste qu'en tant que juste ambianceur. Et il est clair que quand tu fais des productions, ben, ça te permet de jouer en radio si tu es playlisté. Ça te permet d'être joué par d'autres DJ, tu vois. Et je trouve qu'aujourd'hui, il y a des super bons producteurs, mais des très mauvais DJ. Tu vois, ils sont super bons en studio. Ils sont super bons dans les clips vidéo. Ils ont une bonne image, mais quand tu les vois presque en live, c'est très mauvais. Tu vois? Et attention, il y a des producteurs qui sont très bons DJ aussi, tu vois. Mais même encore, qui me disait ça, Snake par exemple, qui est un très bon ami, me disait quand il allait dans les gros festivals, tu vois, pour pas citer Ultra et tout ça, Miami, il me disait, frérot, si tu verrais les escroqueries de producteurs DJ qu'il y a, il me dit, ils savent pas jouer, ils jouent tous en playback, quoi. Tu vois, donc, mais voilà, ces gens-là gagnent des milliers d'euros parce qu'ils ont un bon marketing derrière, ils ont travaillé l'image. Aujourd'hui, travailler son image est presque plus important que de travailler sa technique. Aujourd'hui, on est arrivé à un stade où les gens s'en foutent un peu que tu scratches bien ou que tu fais des passe-passe ou que tu mixes bien. Tout ce qu'ils veulent, c'est entendre leur son ou tu vois, ou découvrir à la limite le son que tu as produit, tu vois. Mais je veux dire, aujourd'hui, la donne a un petit peu changé. Et à l'époque, si tu veux, nous, on faisait découvrir les morceaux aux gens, tu vois, parce qu'il n'y avait pas assez de médiatisation comme maintenant. Il n'y avait pas Internet, il y avait juste MTV, donc qui jouait des clips. Et donc, nous, on faisait découvrir plein de morceaux à travers nos sets. Et aujourd'hui, c'est un petit peu l'inverse. Aujourd'hui, tu es obligé de jouer ce que les gens veulent. Pour les faire danser, quand tu leur fais découvrir un morceau, bah, ils sont pas toujours chauds, quoi. Parfois ils sont froids, ils disent non, c'est quoi, on n'aime pas. Ou, tu vois, ça m'est arrivé bêtement avec plein de morceaux. Tu vas rire, mais avec un morceau par exemple comme Beyoncé Crazy in Love, je l'avais avant qu'il sorte, avant qu'elle sorte le clip, donc je l'avais chopé. Et je le joue au Carré, qui est une boîte quand même super. Et quand je l'ai joué, ça a presque vidé la piste, quoi, la première fois, tu vois. Et je me suis dit, c'est quand même fou. Et 6 mois après, il fallait tu le mettes toutes les heures parce que les gens, c'était le morceau du moment, tu vois. Et,
Encore moins, non.
ouais, voilà, tu vois. Et donc, voilà. Et on commençait à être dans cette transition-là où les gens commençaient à vouloir avoir juste les sons qu'ils veulent et pas plus trop découvrir ce qui se passait, quoi.
J'ai vu que tu avais fait l'ouverture de plusieurs grandes stars américaines, genre Rihanna, 50 Cent. Comment t'en es arrivé là?
Bah, écoute, ça dépend. Il y a eu plusieurs manières dont j'ai eu l'opportunité, la chance extraordinaire de faire la première partie. Donc, par exemple, Beyoncé à Dublin, ça c'est via Live Nation, Rihanna aussi. En fait, comme j'avais signé des compilations avec Universal, dédiqué de Mix 1 jusqu'au volume 13 là. Et donc eux proposaient par exemple Live Nation cherchait un DJ pour leur première partie, un DJ R&B. Bah, j'étais un petit peu le seul entre guillemets avec si tu veux un background derrière où ils étaient sûrs que le show allait être correct. Et donc on m'appelait et fallait faire un mix, se faire valider par exemple pour Drake, il a écouté mon mix, il a dû valider le truc, tu vois, pour Beyoncé aussi. Et quand eux te valident, donc tu sais déjà qu'ils t'ont écouté, tu sais déjà que quand tu arrives, bah, ils savent un peu qui tu es, tu vois, donc ça c'est cool. Et puis la chance aussi, c'est de pouvoir les rencontrer, hein, tu vois, parce que souvent j'ai plein de potes qui font des premières parties mais ne peuvent pas rencontrer l'artiste. L'artiste ne sait même pas, ne savent même pas qu'ils ont fait la première partie. Et moi, c'est ce que j'ai toujours exigé, parce qu'il faut savoir que quand on fait des premières parties, les gens s'en foutent. Les gens, ils veulent l'artiste, tu vois. Donc, il faut vraiment les conquérir 2 fois plus que l'artiste qui est là et qui n'aura rien à faire, parce que les gens sont là pour lui, tu vois. Et par exemple, à Rihanna, je l'ai fait trois, quatre fois. Et Rihanna, donc, la première fois, c'était Universal. Et puis, les fois d'après, c'est elle qui me demandait. Pour venir, la même chose avec Soprano. Soprano, c'est un ami d'enfance, de longue date. Et on est toujours resté en contact. Et lui, c'est quand il vient en Belgique, il vient à mes soirées, tu vois. Il n'était pas connu comme maintenant. Et aujourd'hui, bah voilà, quand il fait un concert, il m'appelle. Même chose pour Big Flo Yoli. Quand c'est des potes comme ça, bah, ça se fait naturellement, si tu veux. Et puis quand c'est, par exemple, comme pour Bruno Mars, j'avais fait aux États-Unis. C'était pour les élections de Miss Amérique, les présélections de Miss Amérique. Et Bruno Mars faisait l'after show. Donc j'ai mixé avant son after show. Et c'était aussi une demande par rapport. J'avais une agence aux États-Unis qui bossait pour moi et qui m'a proposé. Même chose, ils ont écouté, ils ont adhéré. Et donc voilà, donc c'est par moment via le biais de maisons de disques ou par le biais de personnes qu'on connaît, ou alors c'est parfois directement avec les artistes, mais je dirais plus que c'est avec des artistes français que j'ai plus d'affinité et qui vont m'appeler en direct, tu vois, genre un Black M, genre un Big Flo Lee, genre un Sopra, ils vont me dire, tiens, Daddy, on fait un concert telle date au Palais 12, ça te dit de venir faire la première partie. Les frérots, on est là, on est ensemble, tu vois, donc, et ça, c'est vraiment quelque chose, c'est une chance, c'est vraiment une chance extraordinaire. Et j'étais parti aussi une semaine en tournée avec Sean Paul en Allemagne. Alors en Allemagne, il faut savoir que je suis pas connu comme en Belgique, et donc ils me connaissent pas, tu vois, donc déjà ils m'attendent pas, ils veulent tous Sean Paul. Et c'était vraiment un combat pour les convaincre et les amener avec moi dans mon show et dans mon délire. Et on a fait cette date dans toute l'Allemagne. Et ça s'est super bien passé, quoi, tu vois. Et à chaque fois, c'est un petit plaisir personnel de se dire, ah ben c'est cool, tu vois. Je veux dire, les gens sont pas là, ils s'en foutent que tu sois là. Et puis au final, tu mets presque plus l'ambiance que le concert, le vrai concert. Donc ça, c'est cool. Et c'est toujours des chouettes souvenirs et des bons moments, quoi.
Mais du coup, est-ce que c'est une pression de monter sur scène avant des artistes comme
C'est une
ça?
très très grosse pression. Je t'avoue que quand j'ai fait pour Rihanna, c'était une pression de fou parce qu'il y avait 20 000 personnes dans la salle. Et comme je t'ai expliqué, les gens sont pas là pour toi. Donc, tu sais, après avoir vu 15 premières parties, les gens en ont marre, tu vois. Heureusement, il n'y avait pas 15 premières parties. J'étais la seule, mais je veux dire, voilà, il y a toujours cette pression. Le stress, qu'une platine déconne, que tu vois, il y a toujours ce petit stress, mais en général, quand dès que je commence, je lance ma sirène là pour dire c'est bon, ça a commencé, je rentre dans, si tu veux, un genre de personnage qui se protège, tu vois, et j'ai l'impression d'être invincible, tu vois, et je me lâche, je me laisse aller avec les gens, et si les gens sont réactifs, ben, ça me porte encore plus haut, tu vois, mais à chaque performance, même quand je fais des festivals, par exemple comme à Ronquière, il y avait 50 000 personnes, même avant de commencer, il y a toujours cette pression, ce stress de se dire comment ça va se passer, est-ce que les gens vont être réceptifs ou pas, même si on sait qu'il y a une partie qui est là pour toi et qui est fan et qui, quoi que tu fasses, ben, ça va bien se passer, mais je dirais que tu as toujours, et je pense qu'il faut garder ce. Faut être sûr de soi, mais en même temps, il faut toujours avoir cette adrénaline qui te donne envie de te dépasser, tu vois, et de donner le meilleur de toi-même. Et le jour où tu viens et que tu es trop à l'aise et tu es trop tranquille, ben, je pense que tu ne ressens plus le feeling avec les gens et tu es trop déconnecté, tu vois. Et moi, j'aime bien vivre l'émotion au moment même et le ressentir avec les gens au moment même. Donc, si je vois qu'à un moment ça monte très haut, ben, ça va me faire monter très haut. Si je vois qu'à un moment ça se déconnecte un peu, je vais me déconnecter un peu aussi, je vais essayer de trouver le truc qui va les ramener, tu vois. Mais le stress, la pression, elle est toujours là, même après 30 ans de carrière, même après avoir rencontré toutes mes idoles, même après avoir fait plaisir à plusieurs générations de public, il y a toujours ce stress de se dire ouais, est-ce qu'ils vont aimer ou pas, quoi, tu vois.
Et t'as déjà eu des problèmes avec les platines ou quelque chose comme ça sur
Bien
scène?
sûr, je suis arrivé, je mixais au Kosovo, je suis arrivé, partout où je vais, je prends mon matos avec, tu vois, donc je prends mes platines parce que c'est avec le disque dur à l'intérieur, soit, et c'est très, comme ils ne les fabriquent plus, donc c'est très compliqué de les louer. Et donc j'arrive et je suis dans une salle vraiment un peu underground, comme ça au Kosovo, et on branche mon matos et tout, et il n'y avait pas assez de jus, donc il n'y avait pas assez d'électricité, donc tout s'allume mais il n'y a rien qui tourne, tu vois. Et je dis, merde, mais comment on va faire, tu vois. Les gens commencent à arriver, c'était full, en plus c'était plein de stars de là-bas, il y avait Rita Ora et tout ça, tu vois, donc il fallait vraiment assurer, tu vois, et mon matos tourne pas, les platines, ça tourne pas, quoi, tu vois, tout s'allume, ça tourne pas, alors ils ont été chercher un générateur externe, qui un genre de tondeuse à gazon, un moteur de tondeuse à gazon, improvisé, on a tout branché là-dessus et tout a fonctionné, tu vois. Ça, c'est parfois des petits stress comme ça qui, avant de commencer, ou alors parfois tu as le Serato qui répond pas aux platines, c'est un problème de câble, tu vois. Mais quand tu es dans l'adrénaline et le stress de devoir commencer, normalement tu viens, tu plugs, c'est bon, t'attaques, quoi, tu vois. Et c'est vrai que parfois, ben, il y a des aléas du direct. C'est arrivé une fois qu'il y a eu une panne de courant dans un club. J'étais en train de jouer, c'était full ambiance. Et puis d'un coup, tout s'éteint. Tout s'éteint, sauf mon Mac. Mon Mac qui est. Voilà, quand il est chargé, tu sais bien, il continue à tourner. Et on entend de la musique dans le Mac. Et tout le monde a rigolé. Et en même temps, on était stressé parce que voilà, tout s'est éteint. Quand tout se rallume, il faut un petit temps de rebranchement et de rallumer tout, tu vois. Donc, ça a peut-être été 30 secondes, mais ça a paru un quart d'heure, quoi, tu vois, tellement que c'était stressant, tu vois. Mais donc voilà, après, il faut savoir aussi ce qui m'est déjà arrivé, par exemple, tu vois, et ça c'est très grave pour moi, c'est quand j'ai fait mon propre concert au Palais 12. On n'avait pas fait de répète parce qu'on était trop short. Donc j'arrive sur scène, j'ai mon intro, et au moment où il lance les gaz, les fumigènes, tu vois, ça fait tout sauter, quoi. Donc le début du concert, foirage total direct. Alors dans ce cas-là, où tu te dis, bon, tu vas te cacher, tu disparais, tu changes de planète, tu sais pas ce que tu fais, ou alors tu le prends avec humour et tu recommences, tu vois ce que je veux dire, et c'est ce que j'ai fait. J'ai pris le micro, enfin j'avais le micro en main, et les gens, ils étaient là pour moi. Donc si tu veux, quoi qu'il arrive ce soir-là, c'était pas grave, tu vois, ils étaient venus pour faire la fête. Et je dis, vous savez quoi, c'est pas grave, c'est en direct, c'est du live, on va refaire à l'ancienne. Et j'ai refait mon show à l'ancienne, et les gens sont partis direct, tu vois. Et ça, voilà, c'est quelque chose qu'il faut savoir gérer, tu vois. Et heureusement, ce jour-là, j'avais énormément de pression, parce que c'était mon premier gros concert à moi tout seul au Palais 12. Donc je suis le premier DJ de l'histoire à faire le Palais 12, et à le remplir, en plus, c'est juste extraordinaire. Et donc tu as une pression de fou parce que tout le monde t'attend au tournant. Et dès le début, ça foire, tu vois. Donc tu dis, c'est pas grave, tu es au Palais 12, les gens qui sont là, ils sont là pour toi. Il y avait plein d'artistes qui étaient là, que j'avais invités pour venir chanter leurs morceaux. Je me dis, les gens sont là, c'est une fête, c'était 30 ans de carrière. Il y aura des couilles, comme dans toute ta carrière, il y a eu des couilles, tu vois. Donc c'est pas grave, ça fait partie de ton histoire. Laisse-toi aller, prends du plaisir. Et je me suis vraiment, je te jure, je me suis vraiment fait une thérapie tout seul, quoi, tu vois. Et je l'ai pris comme ça, et ça m'a permis de pouvoir faire le show sans presque aucun stress, contrairement à d'autres endroits où parfois je vais, où j'ai plus de stress. Là, j'étais vraiment posé. Mais après le concert, je peux te dire que toute la pression est retombée. J'avais mes membres, mes muscles qui étaient bloqués. Tu vois, je crois que le stress que j'ai essayé de contenir, il est tombé d'un coup après le concert, une fois que tout s'était bien déroulé. Et pendant 3 jours, j'ai dormi après, parce que j'étais HS, tu vois. Donc voilà.
Et est-ce que le fait d'être connu, il y a des gens qui vous reconnaissent dans la rue
Oui, bien
tout le
sûr.
temps?
Oui. Mais ça, c'est depuis l'époque de Benny B, tu vois, quand on a commencé à passer à la télé. Évidemment, dès que tu passes à la télé du jour au lendemain, surtout à l'époque de Benny B, à un moment, je pouvais plus marcher dans la rue parce que il y avait trop de gens venaient arracher nos vêtements. On nous comparait à l'époque aux Beatles, pas musicalement évidemment, mais à la folie des Beatles, comme il y a eu après un petit peu les boys band et tout ça. Mais nous, c'était la première fois qu'on voyait des jeunes de la street danser à la télé avec des vêtements hip-hop, faire du rap, du scratch, du breakdance. Ça a créé vraiment un mouvement et dans la rue, on était vraiment idolâtrés. C'était trop, quoi. C'était trop. Et après, ça s'est calmé au fur et à mesure. Et aujourd'hui, avec le recul, les gens sont là. Il y en a qui reconnaissent, il y en a qui ne connaissent pas du tout. Mais il y a beaucoup, beaucoup de respect, tu vois. Les gens viennent pas, viennent plus m'arracher mes vêtements, heureusement. Et c'est déjà une bonne chose.
Ça, je voulais plus.
Et puis, il y a beaucoup de respect, beaucoup de. C'est fou comme ça a bercé l'enfance de beaucoup de gens, tu vois. Notre morceau et notre histoire. Et il y a cette nostalgie que beaucoup de ce public de cette époque-là qui était enfant, qui aujourd'hui sont devenus des adultes, il y a un genre de respect, quoi, tu vois. Et on vient toujours me demander poliment et je refuse jamais aucune photo ni aucun autographe parce que je trouve que ça fait partie du métier et que c'est la moindre des choses de donner aux gens ce qu'ils nous ont donné, tu vois. Et si on est là, et même bah, ça arrive. J'étais sur un lit d'hôpital, on m'a demandé une dédicace, tu vois. Ça fait partie du truc parce que voilà, c'est comme ça. Et je pense qu'il faut pas, sans vouloir jouer les stars ou quoi que ce soit, mais ça peut représenter beaucoup pour un jeune qui reçoit une dédicace ou qui fasse une photo avec toi. Moi, quand j'ai fait une photo avec Beyoncé, c'était fou, quoi. Elle aurait pu dire non, on fait pas de photo. Elle m'a dit oui, mais j'étais comme un ange. Pourtant, je suis pas. Mais pour moi, la photo, elle est intemporelle, elle marque mon histoire, tu vois, et je sais à quel point ça peut toucher les gens, et donc c'est pour ça que je réponds toujours présent.
Quoi de représenter la Belgique dans le monde?
Bah, représenter la Belgique, c'est un grand mot, ça n'a jamais été le but premier, mais malgré moi, bah, au final, ça l'est devenu un petit peu parce que j'ai une chance extraordinaire. J'ai commencé dans ma chambre, tu vois, tout simplement, avec des rêves de gosse. Et puis j'ai une chance extraordinaire de pouvoir jouer aux États-Unis, en Thaïlande, à Hong Kong, à Dubaï, partout. Et ça s'est fait de soi-même tout seul. Et c'est vrai que ben on dit, ah ouais, tu viens d'où? Tu viens de Belgique? Ah ouais, ça parle des frites, de Jean-Claude Van Damme. Et maintenant, ça dit aussi dédiqué, tu vois. Ça parle et bien sûr, il y a Tomorrowland aujourd'hui avec Dimitri Vegas et Like Mike et tout ça. Donc, si tu veux, la Belgique, ça a toujours été mon pays de cœur et ce le sera toujours. Et c'est une fierté pour moi de pouvoir un petit peu représenter notre savoir-faire parce que musicalement, je trouve qu'on est fort en Belgique. Artistiquement, on a des bons artistes, pas toujours reconnus et malheureusement qui attendent d'être reconnus en France pour être reconnus dans notre propre pays. Et on l'a vécu nous-mêmes avec Benny B. Et même encore aujourd'hui, je trouve qu'avec Angèle, ben, c'est parce qu'elle cartonne en France qu'aujourd'hui, on la reconnaît un petit peu, tu vois. Et je trouve que c'est dommage. Parce qu'il y a énormément de talent, que ce soit dans le rap, dans le chant, dans le DJing, dans le graffiti, dans plein de domaines. Il y a vraiment du talent. Ici, on est vraiment un pays très artistique parce qu'on le fait sans pression, on le fait vraiment avec passion. Contrairement à beaucoup qui veulent juste le faire pour y arriver, réussir ou devenir célèbre, en Belgique, on a encore ce recul. On s'en fout, on est là, on s'amuse, on fait des trucs, tu vois. Et donc, c'est toujours un plaisir d'aller à l'étranger et de ramener la communauté belge dans la soirée où je joue, tu vois. Et ça, via les réseaux sociaux, c'est juste incroyable. Parce que quand j'annonce une soirée, par exemple, au fin fond de la Thaïlande, par exemple à l'Illusion, qui est une grosse boîte à Phuket, et je ramène toute la communauté belge, quoi, tu vois, et c'est cool. Et après, ben, tu rencontres les expats, les gens qui vivent là-bas, les gens qui sont là en vacances, et ça permet un petit peu de nous relier un petit peu tous les Belges dans le monde, un petit peu éparpillés. Et si tu veux, moi, je viens un petit peu essayer de relier tout le monde, et c'est toujours un plaisir. Et après, voilà, représenter la Belgique, je suis pas les Diables Rouges non plus, mais je veux dire, je suis un petit ouvrier à mon niveau qui essaye de rassembler un maximum de Belges partout où il va. Voilà, et puis j'essaie de représenter ma ville, Bruxelles. J'ai eu beaucoup d'honneur et de chance de recevoir la médaille d'honneur de la ville de Bruxelles. Et je suis le seul artiste urbain à l'avoir reçu. Je crois qu'ils auraient déjà dû le remettre à Stromae depuis longtemps aussi. Même à Damso, même à plein d'autres, tu vois. Ça a mis du temps, mais aujourd'hui, enfin, voilà, les choses ont. J'ai l'impression qu'elles bougent un peu. Et donc voilà, c'est une petite fierté. Et j'espère que voilà, les gens le retiendront, tu vois. Même si aujourd'hui, je sais que on a tellement d'informations, on est tellement dans la rapidité que beaucoup de gens ne savent même plus trop les origines de qui a amené quoi, qui a fait quoi. Comme pour le hip-hop, tu vois, les gens ne connaissent pas trop Africa Mbata qui a inventé le mot hip-hop et qui a, si tu veux, un petit peu généralisé cette culture en prenant le Peace, Unity, Love and Having Fun. Aujourd'hui, bah, pour les gens, le hip-hop, c'est ou la danse ou le rap de maintenant, tu vois, ils s'en foutent un peu de ce qui s'est passé avant. C'est pour ça que je suis très content et peut-être un des rares pionniers à pouvoir encore être là aujourd'hui et à plaire à un public d'une nouvelle génération tout en gardant mon public de l'époque. Et ça, c'est une chance incroyable, je trouve. Voilà. On représente la Belgique comme on peut avec fierté, et force et amour et honneur. Voilà.
Comment tu fais pour te faire connaître partout?
Ben écoute, à l'époque où il y a pour comment se faire connaître à l'époque, donc dans les années 80, il n'y a pas de réseaux sociaux, donc la seule manière de se faire connaître, c'est de faire des mixtapes sur cassette. Avec des mix, il n'y a pas SoundCloud, il n'y a pas Spotify, il n'y a rien, tu vois. Donc c'est du main à la main, tu donnes tes cassettes à des organisateurs, à des promoteurs, à des gens où ils achètent tes cassettes, ils aiment ou ils n'aiment pas, mais c'est ce qui te permettait d'avoir des bookings, quoi, tu vois. Moi, par exemple, ce qui m'a fait connaître internationalement, c'est pas le fait de faire l'aventure avec Belibi ou d'avoir fait le premier hit de rap français, c'est quand j'ai commencé à faire mes propres remix sur vinyle, tu vois. En fait, je prenais toujours un son à l'ancienne et je mettais un a cappella d'un son du moment, tu vois, et j'essayais de mélanger les deux. Et puis, j'ai sorti une vingtaine de vinyles avec à chaque fois 7-8 remix dessus. Les vinyles ont fait le tour du monde, en fait, parce que ça a touché directement tous les DJ. Donc, tous les DJ dans le monde jouaient mes remix et mes vinyles. Et c'est comme ça que j'ai eu, si tu veux, un petit peu cette notoriété internationale, parce qu'on a commencé à m'appeler, à me dire, ah, mais il faut que tu bookes celui-là parce qu'il fait des chouettes remix. Quand il vient en soirée, c'est différent de tout le monde, tu vois. Donc c'est comme ça que je me suis fait connaître. Puis après, bon, bah voilà, l'aventure Benibi a été tellement énorme et médiatisée, tu vois, en France et en Belgique. Donc ça a marqué aussi, ça m'a permis de toucher un grand public, tu vois, un public très large. Que ce soit des enfants jusque aux gens plus vieux, tu vois. Donc ça, la télé, malgré tout, ça nous a permis de se faire un nom et de se faire connaître. Mais par après, il fallait perdurer et continuer à exister quand il y a eu moins de succès avec le groupe. Donc moi, j'ai toujours continué, j'ai toujours été un peu cette continuité de notre histoire avec le groupe, si tu veux. Après, il y a eu les réseaux sociaux qui sont arrivés. Bah, on a fait des clips, on a commencé à poster, on a fait des trucs. Et j'étais vraiment omniprésent sur les réseaux sociaux. Moi, j'étais au départ sur MySpace. Je sais pas s'il y en a qui ont connu MySpace, mais c'était vraiment les prémices de Facebook. Déjà poster une photo de toi sur un truc et puis contacter des artistes qui te répondent, c'était un truc de fou. Et après, il y a eu Facebook, j'ai mis du temps à m'y mettre, mais mon manager m'a finalement convaincu. Et après, je pouvais plus m'arrêter de Facebook, donc j'ai vraiment développé ma communauté et mes fans sur les réseaux. Et là, maintenant, ben, on est un peu moins sur Facebook et plus sur Instagram, par exemple. Je suis pas sur Snapchat, je suis pas sur TikTok, parce que là, si tu veux, moi, ce que j'essaie de, pas de vendre, entre guillemets, mais de donner, c'est Bien entendu, des trucs décalés, drôles aussi, ça peut être le cas, tu vois. Mais c'est surtout par rapport à mon métier et par rapport aux expériences que je vis que j'ai envie de partager avec les gens et pas spécialement des chorégraphies avec des chiens ou des chats, tu vois. Donc c'est pour ça que je suis pas très TikTok et je respecte ceux qui le font, mais je veux dire, c'est pas trop mon truc, tu vois. Donc TikTok et Snapchat. Mais par contre, Instagram, je suis à 1000% dessus parce que je trouve que c'est une bonne communauté, c'est sain, il n'y a pas trop de haters. C'est vraiment, tu postes ta photo, les gens apprécient, tu fais des petites stories, les gens rigolent, tu vois, et tu montes ton petit quotidien comme ça et c'est cool, tu vois, et ça se prend pas la tête et ça te permet en même temps de faire la promotion de tes activités, tu vois. Bon, après, il y a les chaînes YouTube, tu fais des clips, tu fais des vidéos, des lives. Ça dépend un peu de ce que tu as envie de mettre, quoi, tu vois. Donc voilà, aujourd'hui, je trouve que. Pardon, je trouve qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile de se faire connaître, mais en même temps, c'est plus difficile aussi parce que tu te bats avec beaucoup plus de gens. Tout le monde a l'opportunité aujourd'hui de se faire connaître à travers les réseaux. Et pas spécialement à cause de son talent, mais parfois à cause d'une bêtise ou d'une vidéo drôle, tu vois. Et donc aujourd'hui, tout se confond et aujourd'hui, tout se mélange et je trouve que c'est encore plus dur. Je pense qu'un Johnny Hallyday arriverait aujourd'hui, il ne ferait pas une carrière comme il l'a fait à l'époque, tu vois ce que je veux dire. Sur la durée, c'est dur de dire, de trouver encore un artiste qui, sur la durée aujourd'hui, on peut dire, oh, mais il est parti pour 100 ans, tu vois. On ne sait pas quoi. Pardon.
Et comment vous avez créé le groupe Benny B?
Alors, le groupe Benny B, il faut savoir qu'on était trois gamins qui dansions dans la rue. En fait, quand j'ai commencé le breakdance et que je me suis fait un nom dans la danse et qu'on a gagné des championnats de Belgique, d'Europe et tout, on a rencontré un peu d'autres danseurs dans les autres quartiers. Et j'ai rencontré Benny et Perfect. On a lié d'amitié avant toute chose. Et on a commencé à danser ensemble, à faire des petites démonstrations ensemble et tout, dans les discothèques, dans les rues de Bruxelles, tu vois, avec un petit chapeau pour que les gens nous mettent des pièces pour s'acheter un milkshake au cuic après. Donc c'était vraiment très naturel. Et puis un jour, il y avait une radio Top FM qui cherchait un rappeur. Et moi, à l'époque, je m'occupais déjà un petit peu de plusieurs rappeurs sur Bruxelles, donc notamment Benny, mais aussi des Fidji, de Bruxelles Rap Convention, enfin de tous ceux qui rappaient un petit peu. Moi-même, je rappais aussi. Et donc, on a fait la démo. Quand on a fait la démo, on l'a fait écouter. Donc, il y a eu un casting et Benny a été choisi. Et donc, on a fait le morceau et on n'avait pas de refrain. Tu vois, on n'avait pas de refrain « Mais vous êtes fous, oui, n'existez pas ». En fait, j'avais créé une séquence, moi, qui disait « Ladies and gentlemen, DJ », « Mais vous êtes fous, oh oui », et qui l'accompagne, Benny B, DJ, Daliké, enfin, soit. Je sais plus dans quel ordre je l'ai mis, mais soit. Et j'avais utilisé mes disques d'enfant pour faire ça, en fait. Donc, il faut se dire qu'à l'époque, il n'y avait pas de vinyle pour scratcher avec des phrases en français, il n'y avait rien. C'était déjà assez dur de trouver des vinyles en anglais, donc j'avais pris mes disques d'enfant, et alors en l'occurrence Capitaine Flamme, qui était un dessin animé super connu à l'époque, et de Goldorak, où ça raconte une histoire en fait, tu vois. Et à un moment, donc j'écoute mes vinyles et j'entends un moment, il dit, mais vous êtes fou, tu vois, et je trouvais ça drôle la manière dont il le disait, donc je me dis, ah, c'est sympa à réutiliser, à scratcher dans les battles de scratch et tout ça. Donc j'avais gardé cette séquence-là, et sur la face B, un peu plus loin, il disait oh oui, tu vois. Et j'ai mis les deux ensemble, et ça a fait mais vous êtes fou, oh oui, tu vois. Et quand je l'ai mis dans la séquence, le producteur a dit ah ouais, mais ça, c'est le truc qu'il faut mettre dans toute la chanson, tu vois. Et donc on lui a dit non, ça va être un peu trop, tu vois, c'est un peu nul. Et au final, il a eu la bonne idée. Et donc au final, jamais j'aurais cru qu'en utilisant mes disques d'enfant, pardon, ça deviendrait le premier disque d'or de l'histoire du rap français. Tu vois, nous on était trois gosses qui s'amusions dans les rues sans se soucier du jour au lendemain. On était devenus des gens qui ne pouvaient plus se promener dans la rue parce qu'on nous arrachait les vêtements et on passait sur toutes les télés nous voulaient. On était les premiers à faire toutes les émissions de télé, TF1, Antenne 2, Jacques Martin, Sacré Soirée avec Jean-Pierre Foucault. On est le premier groupe à faire l'Olympia en France, tu vois, le premier groupe de rap à faire l'Olympia. Tout est arrivé en même temps d'un coup, sur 3 années, ça a été le premier groupe à faire des clips à New York, avant Booba, à Miami, avant Booba, tu vois. Donc, je veux dire, on a une chance incroyable et sans le vouloir, ben, on a ouvert des portes, on a influencé des gens. Et après, on a été les premiers aussi à se faire critiquer. Évidemment, le rap, c'est très combattant, tu vois. Donc, c'est des beefs, c'est aussi ça, le rap, tu vois. Donc, on a été les premiers à se faire clasher par NTM, tu vois, qui aujourd'hui sont devenus des super potes, tu vois. Donc, big up à Joey si nous regarde, Cool Chain, c'est. Voilà, tu vois, à l'époque, on était jeunes, donc il fallait des conflits. Donc, on a été les premiers aussi à subir un petit peu les détracteurs. Mais je veux dire, au final, au recul, on regrette rien parce que, voilà, on a ouvert des portes et sans le vouloir, en fait, tu vois. Donc, on n'a rien calculé, on n'a rien prévu. Et puis, quand tu as un soprano qui vient chez toi et qui te dit, les gars, mille merci, moi, j'ai écouté l'album en boucle, je réécrivais les textes. Et aujourd'hui, on sait où est Soprano. La même chose avec Orelsan. Orelsan était le premier fan de notre groupe, comme plein d'autres. Tu vois, même Booba m'a dit lui-même, on peut dire ce qu'on veut, on a tous dansé sur ton son, quoi. Tu vois, donc et ça, c'est une fierté malgré tout. Tu vois, et indéniablement, on fait partie de cette histoire du rap français. Et le premier hit est pas français, il est belge. Voilà. Et ça, c'est le petit plus.
Et qu'est-ce que tu as l'impression de transmettre avec toute la musique et tout ça à tous les gens?
Ben déjà, avec la musique, j'espère de la joie, de la bonne humeur, le fait d'oublier un petit peu ses soucis, le temps d'un set, tu vois, de transmettre aux gens un petit peu du rêve, tu vois. Mais je veux dire, au fur et à mesure de toutes ces années, mon but n'a jamais été d'être un éducateur ou un transmetteur ou un donneur de leçons, mais j'espère que les gens retiendront en tout cas que ce que j'essaie de leur montrer, c'est la passion qui m'a animé jusqu'ici et qui m'a permis de vivre mes rêves les plus fous et de dépasser même ces rêves les plus fous. Et voilà, je pense qu'aujourd'hui, au-delà de devenir célèbre, de gagner de l'argent, d'être connu ou voilà, d'être fameux, comme on dit, faut garder l'identité et montrer aux jeunes que s'il n'y a pas la passion autour de tout ça, ça reste éphémère, tu vois. Et moi, ce que je veux transmettre, c'est vraiment tout l'amour que j'ai pour ma culture, pour ma musique, pour mon travail, et essayer de le transmettre à des jeunes de plusieurs générations. Pardon, ça a déjà été le cas. Je sais que bah, il y en a pas mal que ça a inspiré, tant mieux, et j'en suis très très touché. Et j'espère que ça continuera. Et ben voilà, je le vois parfois, je reçois des vidéos de jeunes DJ qui démarrent et qui m'ont vu à tel festival ou qui m'ont vu à la radio ou qui c'est super, super gratifiant et touchant. Pour moi, je pense que c'est ça, accomplir. Le fait pourquoi je suis venu ici sur cette planète, c'était pour transmettre ces belles choses et pouvoir partager ma passion avec tout le monde.
Ouais, ok.
Donc voilà.
Bon, bah merci d'avoir pris une bonne petite heure avec nous pour nous partager ta vie d'artiste et
Merci à vous les gars.
on a reçu des petits
Merci.
conseils et ça nous a fait plaisir.
Merci, plaisir partagé. Je fais une dédicace à tous les élèves de l'ULB et je compte sur votre prof pour vous mettre une bonne note quand même parce qu'ils ont bossé les gars. One love la famille.